Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Québec choisit d'ignorer les effets de la multiplication des projets éoliens. Un texte d'Alexandre Shields paru le 16 mai 2026 dans Le Devoir. Malgré les demandes répétées de dizaines de municipalités pour réaliser une évaluation des effets du développement à grande échelle de l'industrie éolienne au Québec, le gouvernement a toujours refusé de déclencher un tel examen de type BAP générique. Pendant ce temps, les promoteurs multiplient les démarches auprès de citoyens qui sont de plus en plus nombreux à s'inquiéter de la suite des choses, d'autant plus que des centaines d'éoliennes devraient être installées d'ici à peine 10 ans. Citoyens de la paisible municipalité de Pakington, située dans la MRC de Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, Étienne Gendron a déjà été approché pour un projet de grande ampleur qui fait partie des centaines d'éoliennes qui seront construites dans la région. Il est d'ailleurs outré de la façon de faire de l'industrie, qui tient selon lui pour acquis son droit d'implanter des infrastructures d'une dimension sans commune mesure avec celles déjà en fonction dans la province. Nous avons reçu la visite de représentants de 2 multinationales de l'éolien. Ils étaient très polis et ils nous ont offert de l'argent pour installer une éolienne de 200 mètres de hauteur sur notre terre. Mais ça aurait signifié que nos voisins, qui ont une maison près de notre terre, subissent les nuisances de la présence de cette éolienne. Je suis donc allé voir mes voisins. Ils n'avaient jamais entendu parler de la possibilité d'avoir une éolienne aux limites de leur terrain. C'est totalement antidémocratique, fait-il valoir en entrevue au Devoir. Je ne suis pas contre l'énergie éolienne. Je suis contre un étalement éolien industriel dans les villages. Ça va trop vite et ça n'a pas de sens comment se développe l'éolien au Québec présentement, ajoute M. Gendron. Il n'est d'ailleurs pas le seul à se poser de plus en plus de questions dans un contexte où des centaines de ces éoliennes deux fois plus hautes que celles déjà implantées au Québec et nettement plus hautes que le mât du Stade olympique seront érigées uniquement dans le Bas-Saint-Laurent à l'horizon 2035. Nous sommes favorables à une transition écologique dans laquelle s'insère une transition énergétique planifiée, concertée et respectueuse de la biodiversité et des occupants du territoire. Ce n'est pas le cas en ce moment, résume Tina Daudelin, porte-parole d'une coalition nouvellement créée afin de discuter de la suite des choses. BAP générique réclamé. Dans le Bas-Saint-Laurent, mais aussi dans plusieurs autres régions, des citoyens ainsi que des municipalités et des MRC s'entendent pour dire qu'avant de multiplier les projets, il serait essentiel de mandater le Bureau d'audience publique sur l'environnement, BAP, pour réaliser un mandat générique. Concrètement, un tel examen permet d'évaluer de manière globale les conséquences environnementales, sociales et économiques d'une filière plutôt que projet par projet. Ancienne conseillère à Saint-Zéphyrin de Courval, dans le centre du Québec, Rachel Fallman préside le regroupement d'élus et d'anciens élus, Vent d'élus, qui dit militer notamment pour une plus grande démocratie municipale. Sous l'impulsion de cet organisme, souligne-t-elle, 62 municipalités et 4 MRC réclament aujourd'hui la tenue d'un BAP générique sur l'industrie éolienne. Mais jusqu'à présent, le gouvernement caquiste a toujours refusé cette demande, précise Mme Fallman. À mon avis, on ne veut pas connaître les impacts cumulatifs, laisse tomber Jeannie Vachon-Robillard, responsable du dossier éolien au regroupement Vigilance Énergie Québec. On ne veut pas que les citoyens soient au courant des dommages pour des territoires qui sont déjà habités, pour les terres agricoles, etc. On ne fait donc pas de BAP générique et on ne laisse pas le temps à un premier projet de se mettre en place pour en évaluer les impacts. On poursuit les appels d'offres. À l'heure actuelle, chaque projet éolien est évalué à la pièce, y compris par le BAP. Or, l'organisme a répété dans plus d'un rapport portant sur de nouveaux développements d'énergie éolienne que l'absence d'un examen global est problématique. Ainsi, dans un rapport sur le projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix, le BAP a souligné que l'évaluation des projets de parcs éoliens à la pièce ne favorise pas une prise en compte adéquate de leurs effets cumulatifs potentiels. Dans le contexte de la transition énergétique en cours, où une intensification du développement de la filière éolienne est planifiée, la commission d'enquête encourage le gouvernement du Québec à se doter d'une vision plus globale et concertée de cette démarche. Développement durable. Des commissaires de l'organisme chargé de conseiller le gouvernement ont aussi souligné, dans d'autres rapports, que l'évaluation globale pour un territoire, comme le Bas-Saint-Laurent, est essentielle pour respecter les principes du développement durable, protection de l'environnement, préservation de la biodiversité et respect de la capacité de support des écosystèmes. Interpellé par Le Devoir, Matthew Johnson, vice-président principal à Hydro-Québec et responsable du dossier éolien, estime pour sa part que la société d'État est bien au fait de la question des effets cumulatifs de la filière. C'est exactement pourquoi Hydro-Québec s'implique dans la filière éolienne. En devenant maître d'œuvre, on assure une planification qui est beaucoup plus coordonnée avec une vue du développement énergétique par grande zone, explique-t-il. Même si plusieurs municipalités et citoyens voient d'un bon œil la multiplication des projets, la création d'emplois et les revenus assurés pour plusieurs années, d'autres redoutent que cette filière, qui se présente comme essentielle dans un contexte de décarbonation de l'économie québécoise, suscite de la division dans les communautés, comme l'a fait dans le passé l'industrie minière ou encore celle des énergies fossiles. Rachel Fallman dit d'ailleurs l'avoir constaté dans sa région en 2023, même si au bout du compte, le projet éolien a été abandonné. Des gens ne se parlent plus, des élus se criaient par la tête derrière des portes closes. Et on va revivre la même chose. Selon elle, il existe pourtant une solution au-delà de l'idée du BAP générique. Elle plaide pour une vision du développement qui impliquerait les communautés et qui se ferait non pas sous l'acceptabilité sociale, brandie par les promoteurs, mais plutôt au terme d'un processus d'approbation qui se veut démocratique, donc un référendum. On pourrait le faire. Mais est-ce qu'on veut le faire? C'était « Le Québec choisit d'ignorer les effets de la multiplication des projets éoliens », un texte d'Alexandre Shields paru le 16 mai 2026 dans Le Devoir.
Le changement climatique est sexiste. Alerte des ONG. Un texte de Lucas Groset et Anne-Sophie Labadie de l'agence France Presse, paru le 12 mai 2026 dans Le Devoir. Longtemps reléguées au second plan, les conséquences du changement climatique sur les inégalités de genre font l'objet d'alertes d'ONG qui déplorent, en amont du G7, l'écart entre les annonces politiques et la réalité des financements. Le changement climatique est sexiste, lance Mathilde Henry de Care France. C'est un accélérateur de la mise à risque des femmes, un multiplicateur des risques, et quand il y a des sécheresses qui frappent, quand on a des récoltes qui échouent, ce sont les femmes qui mangent en dernier et le moins. Actuellement, 47,8 millions de femmes de plus que d'hommes souffrent d'insécurité alimentaire dans le monde, souligne Action contre la faim, ACF, pour qui les inégalités de genre sont à la fois une cause et une conséquence de la faim. La hausse des températures influe également sur leur sécurité. chaque augmentation de 1 degré Celsius de la température mondiale est associée à une augmentation de 4,7% des violences conjugales, indiquait en avril 2025 une étude de l'initiative Spotlight, alliance entre l'Union européenne, les Nations unies et le gouvernement du Mexique. Des phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations au Bangladesh se traduisent par une hausse documentée des violences basées sur le genre et des mariages d'enfants, prend pour exemple Madame Henry. Or, l'inaction face au dérèglement climatique pourrait faire basculer jusqu'à 158,3 millions de femmes et de filles supplémentaires dans l'extrême pauvreté d'ici à 2050, selon le Gender Snapshot 2025 d'ONU Femmes. Dans ce contexte, des organisations profitent du G7 pour tenter de peser sur ce sujet. Diplomatie féministe. Si la France, qui assure cette année la présidence du G7, s'est dotée d'une stratégie pour une diplomatie féministe sur la période 2025-2030 sur le terrain, les associations déplorent le déclin de l'aide et ses effets. En 2025, l'aide publique au développement, APD, des membres et associés du Comité d'aide au développement s'est élevée à 174,3 milliards de dollars, soit une baisse de 23,1% par rapport à l'année précédente, la plus forte contraction annuelle jamais enregistrée selon l'OCDE. Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, Japon et France représentent 95,7% de la baisse totale de l'APD. L'outil de financement du Fonds de soutien aux organisations féministes, FSOF, l'initiative la plus emblématique de la diplomatie féministe de la France, a été sérieusement impacté, souligne Plan International France. On a une attaque du langage, une attaque idéologique et une attaque financière qui n'est même pas contrecarrée par les pays qui protègent les questions d'égalité, commente Léa Cross d'ACF. Le langage diplomatique, c'est une chose, mais après, il faut opérationnaliser ce langage. Même là, même les bailleurs européens qui peuvent porter cette question d'égalité de genre comme la France entraînent un énorme séisme financier en réduisant la voilure. Ces baisses ont des répercussions directes sur le maintien de programmes d'ONG internationales fermés par dizaines, mais aussi sur des structures locales en première ligne et sur des millions de bénéficiaires. On peut vous traduire tout ça malheureusement en nombre de morts, d'enfants déscolarisés, de mariages d'enfants, énumère Michel Perrault de Plan International France. Espace de décision. Pour tenter d'endiguer ces phénomènes, des spécialistes issus des pays du Sud demandent à être associés aux politiques publiques. Au-delà de leur vulnérabilité face aux aléas climatiques, ces femmes portent une partie des solutions d'adaptation, notamment en matière de protection de la nature ou d'agriculture. Les femmes ne sont pas seulement vulnérables. Si on les soutient, elles peuvent devenir des agents du changement, a fait valoir Wang Thi Nguyen A, chercheuse vietnamienne spécialisée dans les solutions fondées sur la nature et l'intégration du genre dans l'adaptation climatique, lors d'une récente conférence de presse en amont du G7 environnement. Et de louer l'importance des subventions des ONG fléchées vers les associations locales qui ont par exemple permis d'octroyer des microcrédits à des femmes, de développer des programmes dans des villages ou d'améliorer les revenus des agricultrices. Par ailleurs, les femmes des communautés autochtones sont encore quasi systématiquement écartée des espaces de décision internationaux. Selon l'une d'elles, Gladys Yolanda Guaman-Casillas, cette spécialiste équatorienne en agroécologie a demandé aux gouvernements de tous les pays du monde à être des moteurs pour que nous soyons entendus. C'était le changement climatique et sexiste, alerte des ONG. Un texte de Lucas Crozet et Anne-Sophie Labadie de l'agence France Presse, paru le 12 mai 2026 dans Le Devoir.
Ces travailleurs étrangers qui restent éveillés la nuit. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 26 mai 2026 dans Le Devoir. Partout au Québec, employeurs et associations patronales clament leurs difficultés à pourvoir les postes des quarts de travail atypiques, comme ceux de nuit ou de fin de semaine. Pour beaucoup, la solution passe par l'embauche de travailleurs étrangers prêts à occuper ce genre de poste. Mais qu'est-ce qui garde ces travailleurs immigrants éveillés? Les choses roulent rondement chez Groupe Meloche, acteur important du secteur aérospatial québécois. Le fabricant de pièces aéronautiques fait tourner ses 4 usines 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, parfois même 7 jours sur 7 dans certains cas. Pour répondre à la demande, l'entreprise de quelques 600 employés a mis en place des quarts rotatifs oscillant entre jour, soir et nuit. De 80 à 90 % de ces postes sont pourvus par des travailleurs étrangers temporaires actuellement. Note Anne-Renée Meloche, vice-présidente aux ressources humaines et aux communications de l'entreprise manufacturière. La présence de travailleurs migrants pour occuper ces plages horaires est essentielle, dit Mme Meloche. Si on perdait d'emblée tous nos travailleurs étrangers, ce serait catastrophique, affirme-t-elle sans hésiter. Nos équipements d'usinage demandent au minimum 1 million de dollars d'investissement chacun. En matière de rentabilité et de délai de livraison, on ne peut pas se permettre de ne pas faire rouler ces machines sur une plage de temps la plus large possible. Sans quart de soir, de nuit ou de fin de semaine, ça ne devient plus rentable du tout. Il y a quelques années, l'entreprise avait mis en place des quarts semblables dans ses installations de Valleyfield. Malgré des primes pouvant aller de 5 à 7 $ l'heure, l'entreprise a perdu environ 75 % de ses travailleurs québécois occupant de tels horaires. Les Québécois ont d'autres possibilités. Dès qu'il y a une occasion pour un travail de jour ou de soir, ou des horaires plus stables, ils vont aller vers ça, souligne Anne-Renée Meloche. Selon elle, les travailleurs étrangers sont non seulement qualifiés pour occuper ces postes, mais également volontaires pour le faire. À l'étranger, les travailleurs occupent souvent des quarts rotatifs. Quand on double ça de la possibilité de venir au Canada, d'avoir de meilleures conditions pour eux et leur famille, les quarts de soir, de nuit, de week-end, ce n'est vraiment pas un problème pour eux. Un passage obligé. Le phénomène est documenté. Les immigrants sont surreprésentés dans le travail de nuit. Selon les dernières données de Statistique Canada, 2,3 % des immigrants reçus travaillent lorsque tout le monde dort, contre 1,5 % pour les personnes nées au Canada. Les travailleurs des Philippines, de la communauté noire et du Sud-Est asiatique sont particulièrement nombreux à vivre à l'envers du jour. C'est une constante dans le temps. Les travailleurs immigrants ont toujours occupé les quarts atypiques, confirme Mircea Vultur, professeur titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique. La première chose dont un immigrant a besoin, c'est d'un emploi pour subvenir à ses besoins et se sentir intégré dans la société canadienne. Et les emplois les plus accessibles pour eux sont souvent les moins bien payés avec des horaires atypiques, précise le chercheur en socio-économie du travail. lorsqu'on est sans expérience en sol québécois, que nos diplômes ne sont pas reconnus et qu'on ne maîtrise pas encore le français, le travail de nuit est un moyen comme un autre d'accéder au marché du travail. Ce ne sont pas juste de mauvais emplois, puisqu'ils jouent aussi un rôle d'intégration économique. Ils sont une porte d'entrée sur le marché du travail. Ça permet d'acquérir de l'expérience, de créer des réseaux, d'apprendre la socialisation au travail avec les Québécois et de se familiariser avec nos ordres professionnels, explique M. Vultour. Dans certains cas, il permet également de toucher des primes qui bonifient leurs revenus. Un machiniste avec peu d'expérience va gagner autour de 22 $ l'heure de jour. Dès qu'il accepte un quart rotatif, il peut gagner 32 $ l'heure, donne comme exemple Anne-Renée Meloche. La qualité de l'emploi a un effet sur la force d'attraction d'un poste, convient Mircea Vultour, qui avertit des conséquences délétères que peut avoir le recours exacerbé aux travailleurs immigrants dans des postes plus pénibles. La main-d'œuvre immigrante joue un rôle clé dans le fonctionnement de secteurs essentiels, mais il faut que l'économie québécoise apprenne à fonctionner avec un peu moins de ce type de main-d'œuvre. Il y a une tension entre notre dépendance forte aux travailleurs étrangers et leur intégration professionnelle, qui parfois ne correspond pas à leurs aspirations ni à leurs qualifications. Il faut penser à ces gens qui viennent ici et qui ont aussi des aspirations personnelles, note-t-il. C'était « Ces travailleurs étrangers qui restent éveillés la nuit », un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 26 mai 2026 dans Le Devoir.
Comment le gras est-il éliminé? Une chronique de Mathieu Perrault, publiée dans la presse du 24 mai 2026. Une question d'une lectrice. Quand on maigrit, comment la graisse est-elle éliminée? Marie-Ève Leduc. Contrairement à la croyance populaire, le gras éliminé durant une diète ne se transforme pas uniquement en énergie. Une partie est évacuée du corps sous forme de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau, principalement des poumons. Citation : Beaucoup de gens, même des professionnels de la santé, pensent que le gras qu'on perd quand on maigrit devient de l'énergie ou de la chaleur. Fin de citation, explique Robin Meerman, un communicateur scientifique australien, qui a publié une étude sur la question en 2014. Mais lorsqu'on brûle, entre guillemets, du gras, on l'oxyde, comme quand on brûle du bois. En se combinant de l'oxygène, 1 kg de gras se transforme en 3,9 kg de matière, rappelle M. Meerman. M. Meerman est surnommé, guillemets, le « scientifique surfer », fin des guillemets, en Australie. Il est devenu une vedette médiatique après un baccalauréat en physique. L'étude qu'il a publiée dans le numéro de Noël du British Medical Journal en 2014 fait partie d'une tradition de recherche mêlant pragmatisme et humour. Cette réflexion a mené en 2016 à la publication du livre « Big Fat Myths ». Citation : Le malentendu au sujet de la perte de gras est causé par le mantra sur les calories « Energy in, energy out ». Dans les discussions sur les régimes, dit M. Meerman. Il faut diminuer les calories et en dépenser davantage. Plusieurs ont aussi l'impression que le gras est transformé en muscle ou en excréments. Fin de citation. La transformation de gras en seule énergie violerait toutefois une loi fondamentale en chimie, la conservation de la masse. Citation. On connaît depuis les années 1940 l'équation de l'oxydation des triglycérides du gras humain. Ellipse C55H104O6+780 au carré, flèche 55 CO2 plus 52 H2O plus énergie. Fin de l'ellipse. Mais curieusement, personne n'avait calculé les masses impliquées, dit M. Merman. Plus des deux tiers de la masse produite par l'oxydation du gras humain sont du dioxyde de carbone, du CO2. Dans le cadre de son étude de 2014, M. Merman a demandé à 150 médecins de famille, diététistes et entraîneurs professionnels où se trouve le gras qui disparaît quand on maigrit. La grande majorité a répondu, guillemets, en énergie ou en chaleur, fin des guillemets, et seuls des diététistes, à hauteur de 5 % d'entre eux, ont répondu CO2 et H2O. Cela dit, 30 % des médecins ont répondu « autre », ce qui laisse penser qu'ils étaient au courant du principe de la conservation de la masse, note M. Merman.
Exercice et alimentation.
L'exercice a permis à M. Merman de confirmer par l'équation chimique de l'oxydation des triglycérides que pour maigrir, il faut surtout moins manger. Citation: chaque jour au repos, on exhale 203 grammes de carbone, la base du gras humain. Si on fait une heure d'exercice comme du jogging, on enlève 20 % plus de carbone, 240 grammes. Mais un seul muffin contient plusieurs dizaines de grammes de carbone. Faire de l'exercice pour perdre du poids peut facilement être une peine perdue si on fait de petits excès de table. Fin de citation. Malgré tout, il y a encore des inconnus en ce qui concerne le rôle du métabolisme dans le gain et la perte de poids. Citation: quand on a un métabolisme plus rapide, on brûle plus de gras, dit-il, fin de citation. Quelques données. 26 % c'est la proportion de Canadiens qui sont obèses, avec un indice de masse corporelle entre 30 et 40. 35,5 % c'est la proportion des Canadiens qui font de l'embonpoint, avec un indice de masse corporelle entre 25 et 30. Enfin, 3,5 % c'est la proportion des Canadiens qui sont obèses morbides, avec un indice de masse corporelle supérieur à 40. La source, Santé Canada. Et c'est ainsi que Mathieu Perrault termine cette chronique, qui est une réponse à une question d'une lectrice. Quand on maigrit, comment la graisse est-elle éliminée? Texte publié dans la presse du 24 mai 2026.